Je connaissais une personne qui était là, que j'étais venue voir. J'avais trouvé l'accueil sympathique, enfin la maison sympathique, et près de chez moi. Donc je venais à pied, c'était près de chez moi, et cette maison, je la trouvais sympathique. Et quand j'ai su qu'il y avait une chambre vide, j'ai demandé.
L'objectif est de casser toutes les cloisons qui existent entre le sanitaire, le médico-social. Parfois on ne communique pas, et c'est de recréer cette communication et de permettre à nos résidents et nos bénéficiaires de se rencontrer et de rencontrer aussi les gens du territoire.
C'est des gens qui viennent à la journée de 9h30 à 4h30, qui vivent encore chez eux. C'est des gens qui commencent à être en difficulté.
Auparavant, les personnes entraient en institution avec une moyenne d'âge de 75-80 ans. Maintenant, on est sur une entrée 90 ans, 92 ans.
Ça s'appelle les vieillardises.
Ça fait gourmandise, oui. Mais en même temps, c'est un projet qui est très gourmand parce que du coup, il y a plein de partage entre des enfants et des seniors.
On travaille avec les équipes pour essayer d'améliorer les conditions de travail, de réfléchir sur l'organisation du travail, sur les horaires, sur les roulements.
Finalement, je me suis rendu compte que les EHPAD sont des établissements remplis de vie, remplis de chaleur humaine, remplis de joie.
Derrière ces rides, ou à partir de ces rides, il y a quelque chose en fait qui témoigne de l'effort de toute une vie, un combat qui a été mené. Allez bien, faisons en sorte que ce combat éclaire l'avenir.
La Maison du Grand Âge, un podcast réalisé en partenariat avec Habitat et Humanisme Soins.
Bonjour, bienvenue dans ce podcast La Maison du Grand Âge. Je m'appelle Gérald Bouchon, je suis journaliste pour Lyon Demain, une radio dédiée à l'environnement, à la solidarité et au vivre ensemble. Avec Bernard Devers, le président fondateur d'Habitat et Humanisme, nous avons eu l'idée de créer cette série audio pour alimenter une réflexion sur l'accompagnement des personnes âgées. Certains EHPAD sont montrés du doigt aujourd'hui, pourtant nos aînés méritent toute notre considération. Plus de 20% de la population française est âgée de plus de 65 ans, et cette tranche d'âge atteindra 30% en 2070. Il va bien falloir faire face à cette évolution démographique. Alors, quelle est la meilleure façon de vieillir? À domicile, dans des résidences intergénérationnelles, dans des établissements hospitaliers type EHPAD? Autant de questions auxquelles nous essayons de répondre dans cette série de podcasts en nous inspirant de modèles existants ou d'expériences à venir. Habitat et Humanisme a créé Habitat et Humanisme Soins pour animer son réseau de 46 EHPAD, mais cette branche vise aussi à développer une approche innovante quant aux alternatives à l'hospitalisation. Objectif, repousser le plus tard possible cette entrée en EHPAD. Pour chacun de nos podcasts, nous nous déplaçons dans un établissement. Pour les deux premiers épisodes, avec Brigitte Nakadjian qui co-anime cette série, nous nous sommes rendus à l'EHPAD Saint-François d'Assise. Cette maison perchée sur la colline de la Croix-Rousse est aussi un véritable laboratoire du mieux vieillir. Elle abrite en effet un centre de ressources grand âge, en quelque sorte un service recherche et développement pour créer du lien, retarder le plus possible l'entrée en EHPAD et casser les codes de l'isolement.
Je connaissais une personne qui était là, que j'étais venue voir, et j'avais trouvé l'accueil sympathique, enfin la maison sympathique, et près de chez moi, parce que j'habitais en bas, rue du Jardin des Plantes, donc je venais à pied, c'était près de chez moi, et cette maison, je la trouvais sympathique. Et quand j'ai su qu'il y avait une chambre vide, j'ai demandé. Je n'allais pas mal, mais je me suis cassé le bras. Et ça m'a bouleversée complètement, je ne pouvais plus rester. Alors c'est comme ça que je suis venue, par choix.
Et vous n'avez pas regretté votre choix?
Pas du tout. D'abord, je suis devenue bien lente. Mmh. Je mets du temps à ne pas faire grand-chose. Je ne me suis jamais ennuyée.
Gabrielle est entrée à Saint-François d'Assise en quelque sorte par la petite porte, contrairement à de nombreuses personnes âgées qui sont contraintes du jour au lendemain avec le choc psychologique que cela provoque. Fermer les volets de sa maison pour la dernière fois, s'éloigner des siens, confier son animal de compagnie pour intégrer un établissement hospitalier et y finir sa vie, le choc est parfois terrible. Habitat Humanisme Soins a donc décidé de créer sur son site croix-roussien un centre de ressources grand âge. Objectif, permettre aux personnes âgées de vieillir le plus longtemps possible possible chez elles grâce à un accompagnement renforcé à domicile et développer une alternative à l'entrée en établissement. Claire Mayol est la directrice de l'EHPAD Saint-François d'Assise.
Un centre ressources grand âge sur le site de Saint-François d'Assise est un laboratoire de recherche et développement pour le soutien aux personnes âgées du territoire en perte d'autonomie. Et nous travaillons sur trois thématiques. Le repérage le plus en amont possible des formes de perte d'autonomie et de dépendance. Sur comment ouvrir nos maisons sur l'extérieur. Et troisième point, travailler en amont pour rendre la maison de retraite soutien du domicile par les différentes offres que nous avons sur le site, l'accueil de jour, l'hébergement temporaire, l'accueil d'urgence, la résidence autonomie et aussi créer du bénévolat avec les habitats sociaux et les jeunes qui sont accueillis sur ces habitats sociaux et créer de l'intergénérationnel avec le pavillon d'Héré. L'objectif est de casser toutes les cloisons qui existent entre le sanitaire, le médico-social et même sur un site comme Saint-François. François, on est tous sur un périmètre qui est assez restreint puisqu'on a différents types d'accueil. Parfois, on ne communique pas et c'est de recréer cette communication et de permettre à nos résidents et nos bénéficiaires de se rencontrer et de rencontrer aussi les gens du territoire. Cette ouverture est vraiment, sur l'enquête qui avait été menée, c'était l'isolement et la rencontre de l'autre qui ressortait vraiment de façon prégnante.
Je m'appelle Fanny Allard et je suis AMP à l'accueil de jour Saint-François d'Assise. AMP, c'est aide médico-psychologique.
Ça veut dire que vous êtes là tous les jours à recevoir des gens qui ne font qu'aller et venir, si on a bien compris.
C'est ça, c'est des gens qui viennent à la journée de 9h30 à 4h30. Qui vivent encore chez eux. C'est des gens qui commencent à être en difficulté, qui ont besoin d'aide à domicile. Donc, soit ils ont leur conjoint, soit ils ont des personnes qui viennent à domicile, aide de vie, kiné, etc. Et pour justement qu'ils puissent rester le plus longtemps possible au domicile, ils viennent aussi à l'accueil de jour pour stimuler un peu sur le plan cognitif, parce qu'ils commencent à avoir des problèmes de mémoire. Il y en a aussi qui ont des problèmes au niveau de la marche, mais ça reste encore gérable.
Et comment se passe une journée à l'accueil de jour ? C'est toujours le même schéma ou il y a des variantes ?
Alors, il y a une routine qui reste la même. Donc, ils arrivent vers 9h30, on fait un accueil avec un café. En général, on débriefe un peu le journal, on papote en fait. Chacun papote un petit peu. Ensuite, on propose une activité de 10h30 à 11h30. On a le temps de repas qui est partagé tous ensemble. Après le temps de repas, il y a un temps de repos où chacun est libre, soit de lire, de regarder la télé, il y en a qui font là un petit peu la sieste. Et l'après-midi, de 3h à 4h, on repropose une activité. À 4h, une collation. Et à 4h30, c'est le départ. Pour la plupart, c'est un taxi qui vient les chercher et qui les raccompagne à domicile. Il y a une dame qui est encore en possibilité de retourner toute seule chez elle, donc qui rentre toute seule chez elle. Il y en a, c'est la famille qui vient les chercher, c'est variable.
La collaboration avec l'EHPAD dans lequel vous êtes installé, est-ce qu'on peut considérer que ça peut être un semblant de passerelle pour un EHPAD ou est-ce que ce n'est juste qu'un partage, on va dire, de locaux et aussi des échanges entre les résidents ?
Ça peut être une passerelle. Il y a des gens qui sont à l'accueil de jour, qui sont actuellement au sein de l'EHPAD. Donc on partage souvent des fêtes, des activités, on fait des repas aussi ensemble parfois. Après, c'est pas forcément le cas. Il y a d'autres personnes qui continuent leur chemin, sont passées par l'EHPAD par la suite. Ça reste variable.
Il y a des échanges entre ceux qui viennent à l'accueil de jour et les résidents à demeure ici. Ce sont des partages intéressants ou plutôt les gens semblent s'ignorer ? Comment vous voyez les choses ?
Non, je trouve que les gens de l'accueil de jour, en fait, ils sont assez curieux de ce qui se passe à l'EHPAD. Justement, ils posent pas mal de questions et ils sont contents de voir des nouvelles personnes et ils vont plutôt à leur rencontre, en fait. Ils voient que ça se passe bien. Puis comme on partage des fêtes ensemble, des temps d'animation, on apprend à se connaître, en fait.
C'est une fois de plus l'humain qui gagne dans ce genre de relation.
C'est ça.
Le maintien à domicile le plus longtemps possible a aussi des répercussions sur l'âge moyen des résidents en EHPAD. Les établissements doivent s'adapter. Agnès Virlejeu est la directrice adjointe de l'EHPAD Saint-François d'Assise. Agnès a 30 ans de maison et a vu évoluer la prise en charge de la dépendance.
Auparavant, les personnes entraient en institution avec une moyenne d'âge de 75-80 ans. Maintenant, on est sur une entrée 90 ans, 92 ans. Donc des personnes qui se maintiennent à domicile, et tant mieux, parce que c'est vrai que c'est très bien de pouvoir se maintenir à domicile. Les centres de soins à domicile ont beaucoup évolué et voilà, c'est très bien. Donc les personnes viennent chez nous quand elles commencent à être très dépendantes et que le maintien à domicile ne suffit plus ou parce qu'il y a des troubles de l'orientation, et c'est souvent ça malheureusement, qui fait que le maintien à domicile n'est plus possible en fait. Donc ça veut dire qu'au niveau de la prise en charge de la dépendance, on est sur une autre prise en charge, on est aussi sur une autre relation au niveau de l'animation. Au niveau des participations, de l'animation, parce que les personnes ne sont pas toujours en capacité de pouvoir participer aux animations telles qu'on les faisait peut-être il y a une quinzaine d'années. Donc ça veut dire, nous, il nous faut évoluer aussi. Voilà, mais on a de la chance d'avoir un établissement où on a une psychologue, psychomotricienne, ergothérapeute, animatrice. Donc ça veut dire une possibilité pluridisciplinaire de prise en charge et un partage des connaissances et des compétences, puisqu'on a aussi une unité de vie protégée sur l'établissement et un accueil de jour. Donc l'accueil de jour étant pour des personnes qui sont à domicile, dont les aidants voilà, ont besoin de pages un peu d'oxygène et donc viennent à la journée. Et l'unité de vie protégée, voilà, où des personnes ont besoin d'être dans un cadre sur un appartement, je dirais, fermé, parce qu'il y a la difficulté, si elles sortent à l'extérieur, de se retrouver. Donc, une obligation d'être dans un endroit qui est fermé. Après, on voit aussi que plus les personnes viennent âgées, plus leurs familles sont elles-mêmes âgées. Ça, c'est un vrai constat aussi. C'est-à-dire que quand on accueille des personnes de 90, 95 ans, c'est-à-dire que leurs enfants eux-mêmes ont 70, 75 ans, ce sont des gens qui venaient à l'époque, il y a 20 ans, rentrer en structure. Donc, donc avec des personnes aussi, quand ils placent voilà, leurs parents, quand ils trouvent une structure, sont eux-mêmes des fois fatigués, malades, je veux dire, il y a aussi toute cette difficulté-là.
L'accueil de jour est animé par des aides médico-psychologiques spécialisées dans l'accompagnement de personnes en perte de capacité cognitive, sous la supervision du médecin gériatre, d'une psychologue ou d'une infirmière. Mais d'autres professionnels interviennent également régulièrement, psychomotriciens, ergothérapeutes, animateurs ou animatrices. Des animations diverses et variées pouvant profiter aux résidents comme aux personnes accueillies pour une journée. Audrey Blanchon est arrivée il y a peu à la Croix-Rousse, mais elle a 10 ans d'expérience dans cette mission d'animatrice, avec toujours la même volonté de s'ouvrir sur l'extérieur.
Ça s'appelle les vieillardises. Ça fait gourmandise, oui. Mais en même temps, c'est un projet qui est très gourmand parce que du coup, il y a plein de partages entre des enfants et des seniors. Des enfants d'une MJC, celle du Vieux-Lyon, qui du coup écrivent des courriers aux résidents pour leur demander un petit peu bah, qui ils sont, quel âge ils ont, quel métier ils ont fait, est-ce que du coup ils mangent bien en EHPAD, est-ce que du coup ils font beaucoup d'activités, qu'est-ce qu'ils font comme activités. Donc voilà, il y a un lien qui est en train de se créer depuis maintenant 4-5 courriers échangés avec les enfants. Et avec cette idée à venir que les enfants vont réaliser des marionnettes pour un spectacle. Ce spectacle fait écho à un spectacle qui est réalisé par deux chanteuses comédiennes qui, elles, ont beaucoup chanté en EHPAD et qui se sont dit, bah, en EHPAD, il y a des personnes avec des histoires assez incroyables et ça serait bête de perdre toutes ces connaissances. Donc, elles ont monté un spectacle qui s'appelle Les Vieillardises. Et donc, l'idée, c'est que ce soit des enfants là qui soient à l'initiative d'un projet un petit peu pareil. Une fois par mois, on fait venir un groupe des musiciens, d'un groupe de musique ou du solo pour fêter les anniversaires des résidents. On a eu, par exemple, début d'année, un accordéoniste diatonique qui nous a fait un petit peu voyager sur des airs irlandais, des airs issus des Balkans. On a également eu un spectacle de sitar, on a eu un quartet de jazz. Prochainement, on va avoir Maïwenn qui présente un spectacle irlandais, donc elle chante, elle danse, elle fait des claquettes et elle joue du violon. L'idée est de proposer un spectacle par mois un petit peu différent pour fêter les anniversaires des résidents, passer un bon moment et aussi pour découvrir finalement, pourquoi pas, des cultures un petit peu nouvelles. On apprend à tous âges.
Clé de voûte de cette réflexion sur le grand âge, le personnel. Avec en toile de fond le désamour pour des métiers considérés comme difficiles, mal payés, peu gratifiants. Pour toutes ces raisons, Habitat et Humanisme a décidé de créer une école. Hugues de Bétigny est le directeur du réseau Habitat et Humanisme Soins.
Au sein de nos établissements, on a beaucoup de personnel extrêmement dévoué pour les résidents et qui aspire à se poser par moments, à s'interroger sur ce qu'elles font et à développer leurs compétences dans une dynamique de qualité. qualité de la prise en charge et de l'accompagnement. On est convaincu que ça peut être une des façons d'essayer de limiter le turnover. Chez Habitat Humanisme Soins, comme dans tous les EHPAD de France aujourd'hui, il y a effectivement des problématiques de turnover, de désamour du secteur de la personne âgée. On travaille avec les équipes pour essayer d'améliorer les conditions de travail, de réfléchir sur l'organisation du travail, sur les horaires, sur les roulements. Donc on essaye d'optimiser de cette façon. On travaille par le biais de cette école qu'on est en train de créer pour valoriser les actions qu'elles ont. Et puis on travaille aussi via notre syndicat professionnel vis-à-vis des autorités pour essayer d'améliorer la condition de nos salariés. Bon, il y a eu des efforts importants qui ont été faits. Il faut le reconnaître, hein, les mesures Ségur, ça représente pour beaucoup de nos salariés une augmentation de 14%. Donc c'est quand même important. Néanmoins, on partait de loin.
Morgane est étudiante en lettres et sciences politiques à l'IRCOM à Lyon. Elle se retrouve un peu par hasard en stage à l'EHPAD Saint-François d'Assise. C'est avec une certaine appréhension qu'elle intègre son poste, mais très vite, Morgane découvre un univers loin des préjugés.
Forcément, mes études sont plus orientées politique, relations internationales. Donc, je cherchais à faire un stage plutôt auprès d'ambassades, de députés, mais c'était très compliqué à trouver et je n'avais toujours pas de stage en décembre alors qu'il devait s'effectuer en janvier. Donc, ma responsable d'année m'a parlé de ces deux EHPAD, du centre de ressources Croix-Rousse Grand Âge et d'Habitat Humanisme. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant parce que je ne connaissais pas du tout ce secteur et qu'on a quand même beaucoup d'a priori sur ce secteur. Au tout début, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur du contact avec les personnes âgées, peur de me retrouver dans tous les préjugés que j'avais. Mais c'était une très belle surprise parce que j'ai été accueillie de manière très chaleureuse. J'ai vu des résidents très, très heureux pour la plupart dans leurs établissements respectifs. Et j'ai pu œuvrer pour la mise en place du centre de ressources Croix-Rousse Grand Âge qui vise à faciliter le parcours de vie des personnes âgées, à écouter les employés, les familles et les résidents afin qu'ils se sentent mieux dans ce genre d'établissement et d'améliorer ces établissements, et j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai pu parler avec les résidents parce que les mercredis, j'étais avec l'animatrice de l'EHPAD Saint-Charles. C'était très, très enrichissant. Les résidents ont beaucoup à apporter. Ils aiment beaucoup discuter et j'ai pris énormément de plaisir à discuter avec eux, à apprendre à les connaître. Finalement, je me suis rendu compte que les EHPAD sont des établissements remplis de vie, remplis de chaleur humaine, remplis de joie. Pour ces EHPAD-là, en tout cas, pour ceux dans lesquels j'ai pu aller, c'était une très belle surprise. Moi, personnellement, j'avais tous ces préjugés parce que j'ai toujours entendu dire que les EHPAD infantilisaient les personnes âgées, qu'on ne les écoutait pas, qu'on ne prenait pas le temps nécessaire avec eux, que c'était des objets en fait. Et j'ai pu voir au travers de mon stage qu'en fait, chaque résident est écouté. On appelle les résidents par leur nom de famille, par leur prénom. C'est vraiment du cas par cas, c'est très individualisé. En fait, les résidents sont très contents d'être ici pour la plupart. Bien sûr, c'est pas forcément adapté à tout le monde, hein, et ça, je pense que c'est propre à chaque établissement. Mais la plupart sont vraiment très heureux et très heureux d'Habitat Humanisme, en fait, du centre de ressources Croix-Rousse Grand Âge.
Bonjour Bernard Devers.
Bonjour à vous Gérald Bouchon.
On se retrouve pour conclure ce deuxième podcast à propos donc des EHPAD. On a entendu pendant un quart d'heure des témoignages, on a bien compris ce que vous faites au niveau d'Habitat et Humanisme. Être dans un EHPAD en 2022, qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Entrer en EHPAD, c'est toujours une forme de violence. Il y a quelque chose qui a craqué. La santé, c'est souvent d'ailleurs en fait, l'entrée en EHPAD se fait de l'hôpital, sans toujours repasser en fait par son domicile. Donc on voit qu'il y a une situation tout à fait délicate. Et donc moralement, c'est un moment très très difficile. Entrer en EHPAD, c'est presque l'annonce d'une mort, quoi. Et pourtant, il va y avoir en fait des années qui sont à vivre. Et comment les vivre. Hier, j'étais dans un EHPAD et en fait, une des résidentes était en fait à la porte et elle était là, elle fumait d'ailleurs en fait. Et je lui dis, mais comment ça se passe ? Et alors, elle me regarde et puis avec un sourire, c'est sympa d'ailleurs en fait, ces personnes âgées qui savent sourire, elle me dit, que voulez-vous ? Ça se passe comme dans un EHPAD, quoi. Et je lui dis, mais encore. Elle m'a dit, bah écoutez, mais encore. En fait, aujourd'hui, il y a quand même il y a une perte des forces. Si on est là, c'est que finalement, on est dans une situation de dépendance. C'est-à-dire le mot EHPAD, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, hein, et qu'on ne rentre pas naturellement dans un EHPAD, c'est plus aujourd'hui une maison de retraite. Alors, c'est plus une maison de retraite, en tout cas, ça ne doit pas être un lieu de retrait. Et ces personnes, parce qu'elles sont des personnes, parce qu'elles sont des vivantes, hein, comment faire en sorte que, précisément, il puisse y avoir des relations ? Pas simplement des relations entre les soignés, entre donc les résidents, des relations naturellement avec les soignants, mais aussi des relations avec les voisins. En fait, les EHPAD, ils sont pas comme ça plantés comme ça à part. Ils sont en fait dans la ville, au cœur de la ville. Comment on va tenter de faire en sorte qu'il y ait des va et des viens. La personne âgée, en fait, est une personne qui a connu l'âge d'entrée chez nous, c'est 91 ans. Ça veut dire qu'en pratiquement presque un siècle qui a été passé que de transformations, elles ont connu, vécu, qu'elles ont aussi auxquelles elles ont participé, et donc en fait, elles sont riches de toute une histoire. Et précisément, cette richesse de cette histoire, elle est celle qui doit les conduire d'abord à une fierté de ce qu'elles ont vécu, des épreuves, des crises qui ont été traversées, elles ont connu la guerre, en fait, etc. En fait, c'est souvent, on a un certain nombre de personnes qui ont été des résistants, enfin, etc. Et donc, il y a toute une histoire. Comment cette histoire, on va pas simplement en avoir le souvenir, mais une mémoire qui va devenir une mémoire d'avenir, et faire advenir à la fois les personnes qu'elles vont rencontrer, en fait, en disant, mais ce que vous avez vécu, mais c'est formidable, ou ça a été très difficile, mais comment vous êtes arrivé à traverser ces moments? Et donc, en fait, on voit bien que là, on a des acteurs qui pourraient aider notre société, en fait, souvent dans une forme d'accablement, de trouver, en fait, des raisons de vivre. Bien, il faut que dans ces EHPAD, on donne aux résidents ces raisons de vivre et de leur dire, en fait, ils ne sont absolument pas à part, surtout que notre société ne se sente pas quitte avec ces personnes, parce qu'en fait, on a mis des financements, parce que les chambres sont correctes, enfin, etc. Ces personnes attendent plus, elles ont bien raison d'attendre plus, et il faut tenter de ne point les désespérer.
Alors comment vous, Habitat Humanisme, entreprise de l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire, comment vous faites pour justement que ces EHPAD, puisque vous en avez 46, hein, je crois, au dernier recensement, soient un lieu de plus grande solidarité?
Alors vous posez bien la question, un lieu de plus grande solidarité. Cette solidarité, elle se vit avec d'abord entre soignés et soignants. Et à dessein, je retiens ce mot, non pas résident, mais des personnes soignées, parce que si elles sont là, elles sont là aussi pour avoir des soins, et aussi pour que, en fait, on leur offre un prendre soin. Donc le prendre soin, il est assuré, et le soin, bien naturellement, à partir de ces soignants. Et la qualité, en fait, d'une maison, elle est d'abord, en fait, c'est la somme de toutes ces attentions de ces personnes, les soignants, les auxiliaires de vie, les aides-soignants, les infirmières, les médecins, etc., qui participent, en fait, à ce que la personne, en fait, elle soit d'abord soulagée de souffrance, hein, bien évidemment, et qu'elle se sente, en fait, reconnue. Il nous faut trouver heureusement qu'on les trouve, mais il faut en trouver davantage, des soignants qui se disent, en fait, c'est une véritable aventure. Quelle aventure ? L'aventure, c'est de faire en sorte qu'il faut lutter, j'allais dire lutter contre la mort, lutter contre les situations de dépendance, lutter finalement contre des situations d'angoisse. Hein. Et donc, il faut que ça soit des lieux qui soient des lieux où il y a un supplément d'âme, des lieux véritablement de vie. Et pour que ça soit des lieux de vie, il me semble, et donc c'est toute notre réflexion actuellement, c'est de dire comment notre association pourrait se transformer en une coopérative pour que finalement les soignants se sentent tout à fait impliqués par rapport en fait à cette maison. Ils viennent pas simplement y travailler, bien sûr, mais ils font davantage, ils viennent porter ces maisons de telle façon que finalement ça soit des lieux un peu inattendus, un peu inespérés. Et donc, il faut qu'ils soient associés, en fait, à cette maison. C'est, en fait, l'histoire du petit prince, vous savez. Le petit prince, c'est avec sa cinquième planète, la planète où, en fait, il trouve l'allumeur de réverbère. Hein. Et il dit, en fait, c'est la seule personne dont j'aurais vraiment aimé être l'ami, parce qu'il s'est éclairé quelque chose. Eh bien, en fait, le lieu de nos EHPAD, ça doit être aussi le lieu d'un éclairage, mettre de la lumière, et en fait créer de l'inattendu. Et lorsqu'on voit le visage de ces personnes âgées, ces visages ridés, mais derrière ces rides, ou à partir de ces rides, il y a quelque chose en fait qui témoigne de l'effort de toute une vie, un combat qui a été mené. Allez bien, faire en sorte que ce combat éclaire l'avenir.
Merci Bernard d'avoir conclu ce deuxième épisode de la Maison du Grand Âge. Merci beaucoup.
Merci à vous Gérald, merci.
Merci à Brigitte Nakadjean qui a participé à cet épisode. Le podcast La Maison du Grand Âge est disponible sur les plateformes habituelles YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez nous aider à diffuser plus largement cette réflexion, c'est très simple, partagez ce podcast sur vos réseaux. La Maison du Grand Âge est aussi diffusée sur nos radios partenaires Lyon Demain, Radio Pluriel, Radio Arménie et Radio Salam. Ce programme est réalisé en partenariat avec Habitat et Humanisme Soins.